Tous les jours à 12h15 et 19h15,
Je vous dis pas,
votre magazine d'information locale.
L'île-Dieu pendant la Grande Guerre, chronique de la vie quotidienne, nouveau livre de Jean-François Henry, paru aux éditions Centre Vendéen de Recherche Historique. Bonjour Jean-François Henry.
Bonjour.
Comment s'est fait la recherche de témoignages et de sources pour écrire votre livre L'île-Dieu pendant la Grande Guerre, chronique de la vie quotidienne?
Alors c'est vrai que c'est une question qui m'est souvent posée, c'est la recherche des sources pour pouvoir écrire une histoire. Alors ce qui est important, c'est d'abord que tous les documents qui sont présentés sont des documents authentiques. Malheureusement, on ne trouve plus aujourd'hui de témoins directs. On est dans le cadre d'un centenaire, donc les témoins directs auraient forcément 120 voire 130 ans pour avoir des souvenirs utilisables. Donc j'ai utilisé aussi bien des souvenirs indirects de personnes qui ont connu ceux qui ont agi pendant la guerre, que des documents comme, par exemple pour l'Île-Dieu, les bulletins paroissiaux.
Très important pour l'Île-Dieu.
Essentiel. Il y avait deux paroisses, le bourg et le port, et chaque paroisse avait son bulletin. Et dans ces bulletins, on raconte bien plus que tout ce qui est la vie religieuse. On raconte aussi bien les naufrages, qu'on raconte le prix du thon, etc.
Le prix des aliments, non?
Voilà, quelques aliments. Enfin, c'est vraiment, le quotidien, parce que ça paraît toutes les semaines, voire tous les 15 jours, mais c'est vraiment au plus près de la vie de tous les jours des gens de l'île-Dieu.
On peut dire que c'était la Gazette ancienne?
Si on veut.
On peut dire ça comme ça?
On peut dire ça comme ça, sauf qu'il n'y a pas de vente de terrain ou de choses comme ça. Autrement, j'ai dépouillé les journaux du continent. Alors là, ce sont des quotidiens. Et parfois, il y a des allusions aux événements qui se passent sur l'île-Dieu. J'ai trouvé, par exemple, dans l'Express de l'Ouest, à peu près une soixantaine d'événements qui sont passés dans l'île.
Journal aussi La Croix, très important, non?
Le journal La Croix, c'est un parisien, non, pas tellement, mais surtout les journaux, alors comme Le Phare de la Loire, L'Express de l'Ouest, La Vendée républicaine, des choses qui sont relativement proches. Et puis autrement, comme nous sommes dans un pays de marins, les marins par principe écrivent beaucoup, donc j'ai trouvé beaucoup de rapports, de lettres, etc.
Rapports de navigation aussi?
Rapports de navigation, rapports de l'administrateur pour tous les événements de mer. Donc tout ça constitue un fond important dans lequel il faut après puiser, il faut mettre tout ça en perspective pour pouvoir écrire.
Et tous ces documents, vous les avez vérifiés?
Tous ces documents sont vérifiés, sont comparés. Par exemple, il y a un document qui est intéressant, c'est un habitant de Noirmoutier a écrit son journal et son journal a été publié. Et très souvent, dans son journal, il fait des allusions à ce qui se passe à l'île-Dieu. Et parfois, il présente des choses qui sont carrément fausses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ce qui se dit à Noirmoutier, alors que l'événement n'est jamais arrivé.
Et avant la guerre 14-18, l'île-Dieu vivait en grande partie de la pêche au thon et des conserveries. Comment les habitants ont vécu le début de la Première Guerre mondiale?
Alors, ils l'ont vécu comme dans toutes les communes, c'est-à-dire que les hommes mobilisables sont partis à la guerre, donc à peu près 350.
Soit 10% à peu près de la population illaise.
À peu près, oui. Ça, c'est correspondant à toutes les communes de France. Mais la différence, c'est qu'à l'île-Dieu, le départ a dû se faire de façon fractionnée parce que nous sommes en pleine campagne au thon, donc on est à la voile. Donc avant que les bateaux ne rentrent et puissent après désarmer et partir, il y a forcément eu un décalage. Alors c'est vrai que la situation économique s'est trouvée brusquement arrêtée.
Parce qu'il y avait pas mal de boulangers et de marins qui sont partis au front, c'est
alors,
bien ça?
Alors, tous les marins, beaucoup de marins sont partis au front, donc les bateaux ont été immédiatement désarmés. Il est impensable que, naturellement, que les femmes puissent suppléer. Et seule la petite pêche a pu continuer le long des côtes. Par ailleurs, on est en période aussi estivale, donc il y a eu les travaux des champs, mais en général, c'était plutôt exercé déjà par les femmes.
Et la période estivale, pendant cette Première Guerre mondiale, il y avait peu de personnes forcément sur l'île-Dieu?
Il y avait que les habitants de l'île, hein. Il ne faut pas envisager à cette époque-là. Il y a quelques touristes, mais on appelle ça des personnes en villégiature. Mais cette façon, c'est carrément infime.
Et la guerre était plutôt au large des côtes de l'île-Dieu, car c'est une route maritime très fréquentée.
Alors cette partie-là de la guerre ne sera vraiment sensible qu'à partir de fin 1916, et essentiellement 1917-18. Les deux premières années, c'est-à-dire 1914 et 15, là on est vraiment dans une logique d'une guerre très loin des champs de bataille. C'est pour cette raison que le gouvernement français a choisi le lieu pour y installer tous ceux qui étaient ressortissants des pays étrangers en guerre contre la France et qui sont installés à la citadelle.
Les internés, on appelle ça comme ça?
Les internés ou alors quelquefois les indésirables.
Pourquoi les indésirables?
Bah parce que personne n'en voulait, parce qu'ils représentaient les ennemis. Alors je mets beaucoup de guillemets bien sûr, mais pour la plupart des gens de l'île-Dieu, c'était les Boches.
Et les gens de l'île-Dieu avaient peur de ces personnes?
Bah, il faut vous rendre compte que lorsque la guerre est arrivée, donc les hommes sont partis à la guerre, donc les marins, les artisans, etc., et sont arrivés dès le mois d'octobre 1914 à peu près 500 personnes qui sont réputées comme des étrangers et qui vont être assignées à résidence dans la citadelle.
Par exemple des Hongrois?
Alors il y avait essentiellement des Allemands, des Austro-Hongrois, mais il y avait aussi des Polonais, il y avait des personnes que l'on appelle les personnes des provinces annexées, c'est-à-dire de l'Alsace et de la Lorraine. Il y avait aussi des Turcs, des Polonais, etc. Il va y avoir beaucoup de va-et-vient, mais essentiellement, ces gens-là vont rester dans la citadelle.
Il y avait aussi le comte Charles von Rapp, si vous voulez nous raconter
alors,
cette anecdote.
Le comte von Rapp est un personnage tout à fait ambigu. Il se prévaut de ses origines aristocratiques et de ses relations haut placées, aussi bien en France qu'en Allemagne, et des consuls, etc. Et il va essayer d'obtenir un statut très particulier. Notamment, il veut obtenir du préfet que son domestique puisse venir à l'île-Dieu. Et chose invraisemblable, le comte von Rapp avait son chien dans la citadelle. Et il va faire pas mal de... C'est un homme, semble-t-il, qui a une attitude très désagréable, aussi bien désagréable pour les Français que pour ses propres compatriotes.
Et par contre, ces internés venus à la citadelle, il y a un moment, ils sont devenus complètement fous.
Alors, ces internés, d'abord, il faut vous rendre compte que ce sont des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, vivaient en France depuis 20 ans, 30 ans. Certains tenaient, par exemple, il y en a un certain Colère qui tenait une maison de santé à Bordeaux. Mmh. Donc, voilà des gens qui sont internés dans la citadelle, qui, on peut le dire, sont en prison et qui ne supportent plus, notamment, l'insalubrité de la citadelle. Du reste, je suis très ému de faire cette interview dans les propres locaux où se trouvaient les internés.
Car on est à la citadelle.
On est à la citadelle. Et certains d'entre eux vont perdre complètement la raison. Et il y en a un, par exemple, qui était fourreur de son état, va poursuivre tous les chats, enfin, pour retirer de leur gueule les rats ou les souris, pour pouvoir les empailler et tanner les peaux. Il y en a un autre qui va passer son temps à peindre sur les murs des espèces de murailles. Il y en a un qui va apprendre la mort de son propre fils, et bien sûr sur le continent, et qui va demander une bêche pour aller l'enterrer dans le pourtour de la citadelle.
Il devenait fou à cause de la promiscuité et aussi non?
C'est difficile à dire, mais on peut mettre l'insalubrité, l'absence parce qu'ils sont assez coupés des nouvelles de leur propre famille, et puis des conditions d'hygiène qui sont vraiment très très difficiles.
Oui, d'ailleurs, les communications entre l'île-Dieu et le continent étaient coupées, car le câble télégraphique...
Voilà, alors l'île-Dieu a joué de malchance. Le câble qui reliait l'île pour les relations télégraphiques a été coupé sans doute par une drague. Mm-hmm. Ce n'est pas par la guerre, mais ça a accentué, ce qui fait que la réparation a énormément tardé.
3 mois, c'est bien ça?
Largement. Et l'île-Dieu a été encore plus coupé du monde qu'il ne l'était déjà.
Et par contre, ces internés qui étaient à la citadelle étaient une manne financière pour les commerçants de l'île-Dieu.
Alors,
est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou pas?
Oui, c'est, pour certains d'entre eux, effectivement, parce qu'il a fallu nourrir 500 personnes. Donc, une partie de l'alimentation venait tant bien que mal du continent, une alimentation très très mauvaise, mais il fallait quand même fournir du lait, il fallait fournir du blé pour pouvoir faire le pain, pour pouvoir les nourrir au quotidien. Mais dans l'ensemble, ça a été plus une préoccupation qu'une chance.
On l'a dit tout à l'heure, la guerre était plutôt au large des côtes de l'île-Dieu, car c'est une route maritime très fréquentée.
Voilà.
C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
À partir de 1916-1917.
Voilà. Donc, à partir du moment où les Allemands vont se lancer dans une guerre sous-marine à outrance, von Tirpitz, qui est l'amiral, va envoyer ses sous-marins, et c'est extraordinaire parce qu'ils partent de la mer du Nord, traversent la Manche et arrivent sur nos côtes. Alors pourquoi sur notamment ces côtes-là? Tout simplement parce qu'il y avait toute une circulation entre les côtes bretonnes et les côtes aquitaines, entre la Palisse, le port de La Rochelle et l'Orient, et ces convois passaient au large de l'île-Dieu. Il y avait ce qu'on appelait un convoi montant et un convoi descendant. Donc là, il y avait des dizaines de bateaux qui passaient par là. Et ajouté à cela, l'arrivée des bateaux qui allaient sur le port de Saint-Nazaire, qui venaient soit des pays du nord de l'Europe, soit qui venaient de nos propres colonies africaines. Donc, et puis, tous les bateaux à partir de 17 et de l'entrée en guerre des États-Unis, qui venaient bien sûr d'Amérique.
Les sous-marins et les mines étaient présentes vraiment sur les côtes et même dans la passe de Port-Joinville.
Absolument. Alors, les sous-marins, c'est un bateau qu'on n'a pratiquement jamais vu. On est au tout début de cette guerre sous-marine. Donc,
oui, les personnes de l'île-Dieu n'avaient jamais vu un sous-marin.
Bien sûr. Donc là, il y a une véritable terreur de voir ce bateau qui surgit comme cela du fond de l'océan.
Des profondeurs, oui.
Et puis, ajouter à cela qu'il dépose dans l'eau des mines sous-marines qui vont, elles, errer dans les eaux sans qu'on les contrôle.
À cause du courant.
À cause des courants. Et il y en a une d'entre elles qui, notamment, est arrivée juste devant les usines. Alors maintenant, pour faire simple, c'est là où se trouve l'arrivée de l'hélicoptère. Mmh. Donc, à ce moment-là, la côte touche carrément la rue qui était très très étroite, hein, le passage.
D'ailleurs, dans votre livre, il y a une photo de ce lieu.
Voilà. Et la mine, va exploser, tout simplement parce qu'elle va heurter un rocher, et l'explosion va faire que l'usine va carrément perdre sa toiture. C'est une violence inouïe. Il y en a une autre qui a explosé en 1916 à La Meule, au pied de la chapelle, l'endommageant notamment les ardents, les murs et
les vitraux aussi.
Les vitraux, et puis une partie de la toiture a été très très endommagée.
Et pas d'autres dommages?
Non. Non, non, mais par contre, une angoisse permanente, puisque le bateau qui faisait la traversée, à un moment donné, ne passe que deux jours. Alors, il faut se remettre dans un contexte, par exemple, d'hiver, où l'amplitude diurne est quand même très, très limitée.
À 18h, il fait noir.
Oui.
Pour rappel.
Voilà. Et pour des traversées qui ne sont pas des traversées de 30 minutes. Hein.
Non, de 2 heures, à peu près, c'est bien
près,
ça?
À peu près. Donc, ils sont obligés de faire très attention, parce qu'ils y vont très lentement, car ils risquent de heurter une mine.
Et les bateaux, c'était pas des bateaux, c'était plutôt des bateaux à voile pour la petite pêche.
Alors, pour la pêche, ce sont des bateaux à voile, alors que pour la traversée, c'est la ville de Ray qui est un vapeur.
Un vapeur qui mettait 2 heures.
À peu près, oui.
Il n'a pas été, par contre, lui, touché par une mine.
Non, il n'a pas été touché, mais il a été, à un moment donné, par faute d'entretien, obligé d'être en réparation un très long moment, si bien que les traversées se faisaient sur des petits sardiniers. Et il y a notamment, bon, je raconte cette histoire parce que j'ai eu la chance de bénéficier de lettres de personnes de l'île-Dieu. Et pour faire une traversée sur un sardinier, ils étaient à peu près une quinzaine de personnes. Et non seulement, ce qui est déjà un nombre considérable, ils voulaient embarquer une vache, ils ont été obligés de tuer la vache avant parce que c'était impossible. Ils avaient des veaux, des cochons, etc., quoi.
Et le cochon, il a réussi à faire la traversée?
Ah, le cochon a fait la traversée, effectivement. Mais c'était au début de... Enfin, en plein automne, et ils sont arrivés de nuit. Et ce que j'insiste, ce sont des bateaux à voile. Donc, avec une très petite capacité. C'est des bateaux qui sont... Il n'y a pas de cale, quoi. Ils sont carrément sur le pont.
Deux naufrages marquants pour l'île-Dieu, un peu méconnus, par contre, le Sequana.
Alors, effectivement, il y a deux... L'année 17... qui est la grande année de l'île-Dieu, a été marquée par, j'ai compté, je pense avoir fait le compte, 27 torpillages dans les alentours de l'île-Dieu. Donc le Sequana, c'est un torpillage terrible, parce qu'il se situe donc dans la nuit. On a un paquebot qui vient d'Afrique et qui a à son bord 600 passagers, 600 personnes, et sans aucune sommation, le sous-marin allemand donc torpille ce bateau.
On sait pourquoi il l'a torpillé
ou... Oh ben, il l'a torpillé parce qu'il torpille systématiquement tous les bateaux qui sont avoisinants. Donc là il n'y a pas de quartier. Et il y avait à bord notamment des tirailleurs sénégalais. Et on compte là près de 198, je crois, tirailleurs sénégalais qui ont péri dans les eaux de l'île-Dieu.
Il y a eu par contre des survivants et les personnes de l'île-Dieu n'avaient jamais vu, on peut dire, de black.
Oui. Hein,
c'est bien ça
alors,
aussi.
Alors, moi, je vais employer le terme, là encore, je vais vous foutre guillemets, mais les textes de l'époque, ce sont des nègres. Mmh. Donc, on voit apparaître pour l'île-Dieu eh bien, une quantité impressionnante de nègres qui débarquent donc, le soir à l'île-Dieu. Et bon, bien sûr, les gens sont très impressionnés. Et,
quelle a été la réaction des îlets?
Alors, c'est difficile de... Moi, j'ai qu'un seul texte qui est une correspondance où la personne en question dit les plus sauvages ont trouvé refuge dans l'encan, c'est-à-dire dans la criée, mm-hmm. et les plus civilisés ont couché dans les maisons du port. Bon. Il faut savoir que ce sont des pauvres gars qui partent sur le front, qui ne savent pas ce qui les attend, et qui parlent un langage propre à leur pays qui s'appelle le Mossi. Donc, difficulté de communication, surtout que leur interprète est décédé dans le naufrage.
Donc, il n'y avait pas de communication entre ces personnes et les îlets.
Absolument, aucune communication. Et puis, il faut savoir aussi que ça a duré très peu de temps parce qu'ils ont été torpillés dans le petit matin du 8 et le 9, ils étaient partis pour l'essentiel. Quelques-uns sont restés à l'hôpital.
Ils étaient partis sur le front, par exemple, à Verdun, c'est bien ça?
Alors, ils sont partis sur le front. Il y a un convoyeur qui est venu les chercher de Saint-Nazaire et qui les a emmenés, eux comme les passagers européens qui venaient des colonies, qui sont arrivés, ils sont partis sur Saint-Nazaire.
Par contre, un naufrage plus connu, le paquebot norvégien Limer?
Alors, Limer, c'est l'événement essentiel.
Vous dites l'événement?
L'événement, oui, parce que c'est un... Non seulement c'est un sauvetage qui a très mal tourné, qui a été un sauvetage héroïque, mais il a pris une proportion extraordinaire. Alors, en deux mots, au large de Rochefort, un cargo norvégien est coulé par un sous-marin allemand, mais à la différence du Sequana, le sous-marin a fait descendre dans les baleinières l'équipage. C'est-à-dire que le sous-marin n'a pas coulé le bateau avec l'équipage. Deux baleinières sont parties, l'une d'entre elles a disparu et l'autre a dérivé et a été vue au large du sémaphore de la Pointe du But. À ce moment-là, il y avait un sémaphore qui a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin. Donc là, le canot de sauvetage est sorti. À l'époque, canot de sauvetage qui était donc essentiellement à voile et éventuellement à rame, si le vent ne portait pas. Ils sont partis avec un peu de retard parce que la marée était trop basse et le canot n'a pas pu toucher l'eau. Et d'un sauvetage habituel, parce que le patron Noé de Vaux était quelqu'un de chevronné, mais un équipage de fortune, puisque les hommes étaient à la guerre.
Donc au front, oui.
Et donc on a fait un équipage avec des vétérans, avec des personnes qui, on dirait aujourd'hui, étaient handicapées, avec des malades. Il y en a notamment un qui relevait d'une bronchite. Et ils sont partis, il fait moins 15 à ce moment-là, et le sauvetage a tourné la tragédie.
Et le sauvetage a duré combien de temps?
Alors, le sauvetage a duré deux jours, c'est-à-dire qu'ils ont eu deux nuits donc, dans cette tempête glacée. Et le bateau est parti en dérive au large donc, des îles Bretonnes et a touché terre à Ragnès, à l'embouchure de la Veynes.
C'est pour ça que maintenant, sur l'île Dieu, on retrouve le monument de la place de la Norvège.
Voilà. Alors, à ce moment-là, l'événement a été a beaucoup marqué et le royaume de Norvège a été très, très sensible à cet acte d'héroïsme des marins de l'île-Dieu, en décidant d'abord de doter les veuves et les sauveteurs de sommes d'argent assez importantes. Donc, dès le 18 juin, le ministre de Norvège est venu rendre hommage aux sauveteurs et bien sûr aux veuves. Et après, il prend la décision d'élever un monument. Et dès le lendemain de la guerre, la décision va être prise. Il choisit le plus grand sculpteur norvégien, Stefan Sinding, pour élever ce monument que nous connaissons.
Et à la fin de la guerre, comment les îlets ont vécu cette fin de guerre?
Alors, cette fin de guerre a été vécue comme un peu partout par cette épouvantable grippe espagnole. C'est-à-dire qu'au moment où on pouvait se réjouir de la fin des combats, l'île-Dieu a quand même payé de 130 morts, ce qui est un nombre important de victimes. Mais la mort continuait quand même à frapper, et frappait là les gens qui n'étaient pas des participants à la guerre. C'est cette donc grippe qui va toucher un quart de la population de l'île-Dieu. Un quart. À un moment donné, ils sont très très nombreux malades, et il y aura toute une épidémie et des morts. Il y a à peu près une trentaine de morts en une vingtaine de jours.
Un quart de la population sur à peu près 5000 habitants, c'est bien ça?
Plutôt 4000.
Plutôt 4000.
Oui. Mais un quart de malades, pas de morts, hein. Bien sûr, de malades.
De malades, oui.
Mais c'est quand même un nombre considérable.
Et par contre, après, ensuite, la pêche au thon a repris ses droits, la vie...
Voilà, à peu près des 40 dindés, il n'y en avait qu'une quinzaine qui étaient capables de reprendre la mer. Et après, on va avoir au lendemain de la guerre une renaissance de la pêche au thon, notamment avec de nouveaux armateurs. Et l'un est très connu, puisque c'est le peintre René Delumeau qui arrive à l'île-Dieu et qui va contribuer, entre autres, il n'est pas le seul, mais à... redonner un élan nouveau à la pêche au thon.
Jean-François Henri, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir ?
Non, simplement de dire que j'ai été très heureux de me plonger dans cette histoire et de restituer le mieux possible la vie difficile des gens de l'île, notamment des femmes de l'île.
Et vous serez demain au casino à 18h30 pour présenter votre livre à la population. Vous allez faire une petite conférence ?
Oui, je vais faire une présentation. Ce n'est pas véritablement une conférence, mais je vais surtout insister sur les documents qui m'ont permis d'écrire cette histoire.
L'île-Dieu pendant la guerre, chronique de la vie quotidienne. Merci Jean-François Henri de toutes ces informations.
Merci.
À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est sans oublier sorties DVD de la semaine. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.